Radio Tranxène, Strasbourg, sans acouphènes.
Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, c'est La Lentille, au micro de Radio Tranxène sur Radio Judaïca, et j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques émissions qu'on passe ensemble et vous commencez à me connaître, alors vous vous attendez peut-être à une histoire sur l'actualité ou une scène de vie poétique sur laquelle j'aimerais revenir. C'est vrai, je pourrais vous parler longuement des arbres qui bourgeonnent, de la lumière qui change et des cigognes qui reviennent dans la plaine d'Alsace. Je pourrais disserter sur le printemps, mais au moment où j'enregistre cette émission, nous venons tout juste de passer le premier anniversaire du premier confinement. Quoi ? Comment ? Encore du Covid ? On nous en sert tous les jours dans les journaux, tu veux pas nous parler d'autre chose, la lentille ? Alors oui et non, car ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui est intimement lié à la pandémie. Avant mars dernier, j'avais une habitude chaque week-end. Glisser mon bouquin du moment dans mon sac et filer dans un café. Enfin, plus exactement, glisser tous les bouquins du moment dans un sac, me faire mal au dos, aller au café et me demander lequel j'allais lire pendant 30 minutes. Ma destination, une fois sur 10, c'était le marché-bar à la Cruteneau et j'avais l'impression de revenir à la maison, en quelque sorte. Les voix, les gens, l'odeur du café moulu, la tasse qui cliquette dans sa soucoupe en arrivant. Ce moment, cet endroit, cet espace-temps, en somme, c'était un cocon. Et il n'était pas rare que je croise des amis que je n'avais pas vus depuis quelques semaines ou que je prenne des nouvelles de quelques habitués. Un an plus tard, aujourd'hui, le week-end est toujours pour moi synonyme de lecture dans un café, sauf que c'est pas possible et je dois me rappeler chaque samedi que ce n'est pas possible. Le fantôme de cette habitude a survécu à la pandémie et j'en suis la première étonnée. J'en suis d'autant plus étonnée qu'à l'époque, il n'était pas rare que je me sente enfermée dans mes habitudes. En quelque sorte prisonnière des mêmes lieux que je fréquentais sans cesse, et même de ces habitudes que j'avais du mal à laisser de côté. Bref, je pestais contre la routine. Et puis il y a eu le premier confinement, le second confinement, le couvre-feu à 20h, le couvre-feu à 18h et patatras les habitudes. Enfin, pas tout à fait. Comme tout le monde, je me suis adaptée. Et j'en ai créé d'autres. Récemment, je suis tombée sur un article des dernières nouvelles d'Alsace qui demandait à ses lecteurs comment ils tenaient face à la crise. Et tous avaient mis en place des petits rituels. Aller randonner, classer des trucs, se lancer dans une nouvelle activité chaque jour à heure fixe. Et c'est là que j'ai réalisé que ces fils à la patte que je nommais habitude, voire routine, pouvaient devenir des rituels. Alors bon, dans la notion de rituel, il y a quelque chose de sacré, mais il y a aussi l'idée d'une certaine forme de présence au moment présent. L'habitude, c'est ce qu'on tient, c'est ce à quoi on se tient sans y penser. Le rituel, c'est ce que l'on s'attache à perpétuer. Et ce qui permet de rompre avec la course du quotidien aussi, le métro, boulot, dodo, qui est encore plus pesant en ce moment. Alors bon, j'espère que la pandémie sera bientôt définitivement derrière nous et que tout pourra rouvrir. Et s'il y a bien quelque chose que j'aimerais garder pour l'avenir, c'est ça. Un petit moment quotidien ou régulier, arraché au temps courant. Un fragment temporel à garder pour soi entre ses paumes. Des espaces-temps qui seront capables de survivre aux crises éventuelles à venir pour nous garder debout dans la tempête.
Tranxène, c'est...
Cette semaine, sur Radio Tranxène, nous avons choisi de vous parler d'une association hyperactive présente sur tous les fronts de la précarité, particulièrement depuis le début de la pandémie, Strasbourg Action Solidarité, aussi connue sous le nom de SAS. Et nous recevons aujourd'hui Emmanuel Suzan pour nous en parler. Bonjour Emmanuel.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs et auditrices.
Alors bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas Strasbourg Action Solidarité, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous faites ?
Eh bien en fait, à l'origine, on fait une distribution alimentaire à la gare, et on fait deux maraudes dans la semaine, c'est-à-dire on va dans toute l'Eurométropole à la recherche des sans-abri, de ceux qui dorment dans des logements de fortune, ou dans des squats, ou dans leur voiture, etc. Et puis depuis un peu plus d'un an, maintenant on a un local, un lieu d'accueil, où les gens peuvent venir prendre un café, se réchauffer après avoir passé la nuit au froid. Ils restent pour manger à midi, ils font un lave-linge, un sèche-linge, ils prennent une douche, on s'occupe de faire des papiers administratifs. Voilà, ça c'est notre gros travail. Actuellement, on est mandaté par l'État pour aller servir 380 personnes dans 7 hôtels différents dans le Eurométropole. C'est un travail qui demande une direction presque militaire, parce que le temps est très compté. Donc on a des brigades qui partent sur le front. C'est très très éprouvant, quoi. On fait des rencontres magnifiques. À côté de ça, on fait quoi ? On a, comme tout le monde, été très touché par la précarité étudiante. Donc, les repas qu'on confectionne actuellement, on a eu la très grande chance d'avoir un partenariat avec la brasserie Léara, Et donc, en fait, on leur fournit le matériel et tous les jours, ils nous cuisinent des plats absolument succulents.
Pour les étudiants ?
Non, pour les personnes en hôtel.
D'accord.
Et en fait, on a profité de cette opportunité pour se dire, allez, tiens, on va faire appel aux étudiants et les étudiants peuvent venir chez nous chercher des plats tous les jours, voire pour plusieurs jours d'affilée. On en profite aussi pour leur donner un petit colis alimentaire, voir comment ils vont, discuter un petit peu. Voilà, ça c'est très important.
Donc ça c'est une action que vous avez mise en place pendant la pandémie.
Tout à fait, tout à fait.
Est-ce que vous avez décidé d'ouvrir ce partenariat que vous avez avec l'OARA pour des repas aux étudiants ?
Très, très récemment. Hein. En fait, on avait déjà des étudiants qui venaient chez nous régulièrement chercher de la nourriture et des colis alimentaires. Et puis, on s'est dit, on pourrait peut-être faire un petit peu plus. Et puis, comme de toute façon, on est dans l'action tout le temps, ça ne nous dérangeait pas de faire quelques repas en plus. En fait, quelques repas en plus sont devenus beaucoup de repas en plus.
Alors, combien ?
À la louche, allez, on va dire une quarantaine minimum. Sans compter qu'on a aussi beaucoup de gens qui viennent directement manger chez nous au local. En plus, quand on est estampillé Brasserie Les Rats de Strasbourg, forcément, ça attire du monde. Nous, ce qu'on a voulu, c'est laisser libre accès à tout le monde. Et donc, il n'y a pas de carnet d'étudiants. On s'en fout un petit peu. Quoi.
Donc, ceux qui en ont besoin sont libres de venir.
Exactement,
en fait.
Exactement.
Alors, comment est-ce que ça fonctionne, Strasbourg Action Solidarité ? Est-ce que vous avez des dons d'acteurs en particulier, de tous ceux qui souhaitent faire un don ?
Alors, en fait, nous, ça fait 8 ans maintenant qu'on est sur le terrain. On ne fonctionne qu'avec des dons. Nous n'avons pour le moment pas de subvention de la mairie. Et en fait, ça fait 8 ans qu'on tourne très bien. Nous avons énormément de sociétés qui nous suivent. À qui on peut remettre des bons CERFA pour la défiscalisation, forcément, comme on est considéré d'intérêt général. On a beaucoup de particuliers qui nous suivent. On a un très, très gros réseau. Et c'est sur ce réseau qu'on s'appuie. Et ça marche très bien. Ça marche très bien.
Donc, par exemple, pour les repas cuisinés au HARA, c'est des repas cuisinés par l'équipe du HARA et par les bénévoles de SAS ?
Absolument pas. C'est que c'est toute l'équipe du HARA qui s'est portée volontaire pour être bénévole dans les cuisines. Et ce sont des professionnels qui font à manger avec mon épouse, qui elle est déjà une professionnelle de la cuisine.
Et c'est vous qui apportez finalement les matières premières.
Voilà, on amène les matières premières. Alors on bénéficie aussi bien entendu des facilités d'accès des HARA. Et puis on profite aussi de notre propre réseau. Hein. Nous, ça fait 8 ans qu'on travaille avec la SAPAM qui nous donne des légumes au marché Gare. Des légumes d'excellence, quoi. Donc c'est des partenaires privilégiés. Et puis plein d'autres hein, qui viennent nous apporter des fonds de tarte, etc., etc. Enfin, je pourrais pas tous les nommer tellement ils sont nombreux. C'est comme ça que ça fonctionne. Tous les jours un nouveau repas.
Donc c'est tous les jours que O'Hara ils se mobilisent pour nourrir donc les hôtels qui sont à la périphérie de leur métropole et des gens qui en auraient besoin qui viennent au local.
Sans compter qu'on continue notre distribution du samedi où là aussi il faut un repas. Alors là en ce moment c'est à peu près 150 personnes. Vous rajoutez à peu près 50 personnes dans la maraude qui suit où là on fait toute leur métropole. Ça c'est le mardi et le jeudi. Et puis lorsque nos amis de Abribus s'arrêtent pour la période estivale, nous on reprend une deuxième maraude le jeudi, une deuxième distribution le jeudi.
Donc vous faites mardi, jeudi, en maraude.
En maraude.
Et tous les jours des repas ou à
tous les jours des repas.
Pour les hôtels.
Pour les hôtels, plus les gens qui viennent et ils sont de plus en plus nombreux.
Alors parlons-en du coup de ces hôtels. Ce sont des hôtels de mise à l'abri, c'est ça, d'un certain nombre de personnes.
Des hôtels qui ont été réquisitionnés et où on a placé en état d'urgence suite à la crise sanitaire, on a placé sur la ville de Strasbourg, c'est à peu près 3000 personnes qui sont placées en hébergement.
Et comment ça se passe pour nourrir toutes ces personnes ?
Eh bien, celles qui sont dans les hôtels, alors ça dépend. Hein. Il y a une partie qui est prise en charge par l'étage, l'autre partie par nous. Et pour les autres, en fait, c'est un petit peu la débrouille, quoi. Alors certains ont la chance d'avoir des cuisines dans les hôtels, ce n'est pas toujours le cas. Voilà.
Alors vous me disiez que ça fait 8 ans que SAS est sur le terrain à Strasbourg.
Oui. On avait une autre appellation avant, mais voilà, ça fait, nous, l'équipe, ça fait 8 ans qu'on est sur le terrain.
Là, depuis la pandémie, vous avez mis en place des nouvelles actions. Mais est-ce que vous avez constaté un changement dans les publics qui viennent vous voir, les gens qui font appel à vous ?
Alors, je ne voudrais pas être tristouné, mais effectivement, là, on a été très surpris, très choqués et un peu meurtris lorsqu'on a vu arriver des gens qui n'avaient jamais fait de leur vie de demande d'aide, quelle qu'elle soit. Ils avaient toujours eu tenu plus ou moins la tête hors de l'eau. Monsieur faisait un peu d'intérim, madame un peu de ménage. Ce sont les premières choses qui sont tombées avec la crise sanitaire. Et ils nous sont arrivés au bord des larmes. Et bon, moi, j'essaie de garder l'humour. Hein, je suis un clown, hein, mais c'est pas facile à vivre. Faut dédramatiser, mais c'est pas facile. Parce qu'il y a des enfants derrière, il y a des familles qui sont aux abois. C'est très, très dur.
Donc, ce sont des gens, par exemple, qui viennent au local que vous avez désormais ?
Oui, tout à fait. Bien souvent, ils nous sont orientés par les assistantes sociales, pareil, de toute l'Europe métropole, qui n'ont pas encore droit d'accès au restaurant du cœur ou d'autres structures. Et donc, en attendant, parfois, ça met 15 jours, 3 semaines avant d'y accéder. Donc, en attendant, il faut bien qu'ils mangent. Et chez nous, il y a toujours à manger.
Ce local, où est-ce qu'il se trouve
et... Alors, nous, on est placé au 9 rue de Flandre. Hein, c'est entre l'avenue de la Forêt-Noire et l'Esplanade. On est ouvert du lundi au vendredi. Et puis, le samedi, dimanche, c'est un peu particulier, mais on reçoit encore. Et puis, on travaille 7 jours sur 7.
Depuis 8 ans.
Oui, ouais. C'est très prenant. Là, ça fait un an qu'on ne s'est pas arrêté. Faut savoir que il n'y a pas beaucoup d'associations qui ne s'arrêtent pas en été. Nous, on ne s'arrête jamais. On travaille été, hiver, on ne s'arrête jamais.
Et vous appuyez sur une équipe de combien de bénévoles à peu près ?
En bénévole, on est en bénévole actif. On peut compter à peu près sur une quarantaine ou une cinquantaine de personnes. Sans aucun souci. Après, on a un groupe, on a une page Facebook avec plus de 4000 abonnés. Notre réseau est tellement fonctionnel que lorsqu'on fait une demande de pointure en taille 46 le matin, le lendemain, on l'a.
D'accord. Alors, vous m'expliquez tout ce que vous faites pour subvenir aux besoins de personnes qui ont ces besoins-là. Est-ce que c'est tenable comme système sur le long terme ? Parce que vous me disiez que vous palliez un petit peu au manque de l'État, finalement.
Nous, on ne se pose pas tellement la question. Hein. Lorsqu'on a commencé avec mon épouse, j'aime bien dire qu'on est rentré en solidarité comme d'autres rentrent en religion. Hein. Et puis nous, en fait, on n'apporte pas de la prière, on apporte du concret, on apporte de la nourriture. Et moi, je suis éduqué à la pensée d'André Chouraki et je partage son constat. Lorsqu'on a le ventre plein, on est plus à même de penser à quelle société on veut vivre et quel monde on veut pour demain. Quoi. Tant qu'on n'a pas les calories nécessaires à sa survie et à la survie de sa famille, on court toute la journée.
Alors, ma question portait plus sur l'association. Est-ce que ce que vous faites là actuellement, qui est quand même beaucoup sur un an puis sur 8 ans, c'est quelque chose que vous pouvez encore tenir longtemps ?
Écoutez, non seulement on pense pérenniser la chose, mais en fait, nous, on n'est que des individus. Hein. On prépare la suite. Hein. Et on est très heureux tous les jours de recevoir des demandes de jeunes collégiens, hein, très jeunes collégiens, qui veulent venir faire des stages et qui sont absolument enthousiastes de ce qu'on fait. Et là, on est sûr d'une chose, c'est que la suite est là, quoi. Et nous, on est juste là, en fait, pour transmettre. Hein. Voilà, pour l'instant, on monte la structure, on monte tout ce qu'il faut, et puis il y aura la transmission derrière.
Donc le but, c'est de créer un réseau qui va continuer à vivre.
Absolument. Et bien au-delà de nous.
Bien au-delà. par rapport à la pandémie à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a des manques en termes de solidarité, en termes d'aide alimentaire qui n'ont pas encore été pourvues, que vous avez identifiées ?
En fait, il y a eu ce gros problème avec les étudiants, qui est en train de se résoudre. Hein. J'ai vu les dernières informations au niveau de la mairie. Je crois que vraiment toutes les sociétés de l'agroalimentaire ont fait des gestes énormes pour pourvoir à ces manquements. C'est vrai que les besoins sont aussi financiers. Quoi. Pour les étudiants, la nourriture, c'est bien, mais c'est vrai que avoir un petit peu d'argent dans le porte-monnaie, c'est bien aussi. Des besoins alimentaires, sans être pessimiste, hein, on est vraiment qu'au début de la vague qui va nous arriver. Tous les jours, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes. Les personnes continuent à arriver, sont de plus en plus demandeuses, et c'est normal. Fort heureusement, on est en Alsace et à Strasbourg. Il y a un tissu associatif qui est absolument magnifique, qui n'a pas lieu ailleurs en France. Hein. Faut quand même dire que Strasbourg, c'est exceptionnel. Cocorico, les Alsaciens. Mais les besoins vont aller en grandissant. Et donc, il va nous falloir des produits secs, des conserves, du poisson, des raviolis. Il va nous falloir vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Parce que un colis alimentaire pour une semaine, pour une famille de 4 personnes, c'est quand même conséquent, quoi.
Donc un an après le début de la pandémie, vous avez le sentiment que le pire, entre guillemets, est encore à venir sur le plan de la précarité.
Pour l'instant, ça a été que de la rigolade. Ça a été que de la rigolade. Ce qui va nous arriver, ce qui va nous tomber dessus, ça va être dramatique.
Et comment est-ce qu'on va pouvoir faire face à...
Ah ben ça, c'est à nos élus hein, de faire leur travail. Hein. Ils sont élus pour ça et ils ont des situations confortables.
Bonne
Je ne vais pas en dire plus. Hein.
Alors, il y a une question que je pose à chaque fois qu'une association vient dans l'émission, c'est de quoi est-ce que vous avez besoin aujourd'hui ? Est-ce que vous avez des besoins en termes de bénévoles, de dons, de gens qui voudraient intégrer le réseau, de gens qui voudraient donner leur temps ? Quels sont vos besoins ?
Nos besoins, en fait, on a un local de 85 mètres carrés, on aurait besoin de pas loin de 200, donc ça c'est vraiment un gros besoin. On a besoin de gens qui touchent en graphisme, on a besoin de denrées alimentaires, de produits secs, des pâtes, du riz, enfin toutes ces choses-là, vraiment ça nous manque énormément. On a un gros stock, mais la façon dont il part, c'est hallucinant. Ce qu'on a besoin, c'est de nous faire un petit coucou. On a besoin de soutien, on a besoin de belles paroles. C'est à travers tout ça qu'on tient.
Du soutien moral aussi, finalement,
oui,
pour vous,
sûr,
association et bénévoles.
On a fait une collecte alimentaire par des étudiants de l'OMNIS. Ont monté une cagnotte pour offrir des kits de confort. Sac à dos, tente, etc., qui a eu un vrai, vrai succès. Hein. Les étudiants ont été formidables. Et en fait, on a eu un gamin qui nous a envoyé 10 euros. Quoi. Je crois que ce don-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Quoi.
Donc, voilà. des bonnes volontés.
Voilà, des bonnes volontés. Savoir que on n'est pas parfait. On n'est pas parfait, mais l'homme est perfectible. Donc on apprend tous les jours, on essaye de devenir plus grand et plus humble. Mais de toute façon, on n'avance jamais tout seul. Et chacun, en tant qu'individu, peut faire un pas vers l'autre, quel qu'il soit. C'est pas forcément à travers un don d'argent, c'est parfois simplement un sourire, c'est un petit bonjour. Chacun peut faire quelque chose, quoi.
Ben c'est transmis à nos auditeurs.
Merci
beaucoup.
Beaucoup,
Emmanuel, d'être venu nous parler de Strasbourg Action Solidarité sur Radio Tronxen.
Ça m'a fait plaisir, merci.
La Malle, sur Radio Tronxen.
Cette semaine, un loup solitaire a été aperçu dans le Korhorsberg à quelques kilomètres de Strasbourg. On me chuchote à l'oreille qu'un autre spécimen se promènera bientôt sur les ondes de Radio Judaïka. Un animal libéré au micro par Baba Yaga et extrait du recueil Les Loups de Sylvie Folmer.
La prière des loups. Dans ce pays du Nord, on disait que, certaines nuits, les loups se rassemblaient pour prier. Personne n'y croyait. On n'avait jamais rien vu de pareil. Il aurait pourtant suffi qu'un seul se souvienne. Sur la steppe glacée, des étrangers avaient établi leur campement. Le feu clair sculptait dans la nuit leur visage changeant. Cette nuit-là, Rudolf est parti seul dans la forêt. C'était plus fort que lui. Il a marché longtemps. Et puis soudain, tout près de lui, il a entendu des hurlements. Il est monté à l'arbre le plus proche, a retiré sa ceinture et s'est attaché à une branche. Des dizaines de loups s'étaient rejoints dans la clairière. L'un d'eux, immense, s'est lentement avancé et les bêtes ont ouvert un passage à leur chef. Le cercle s'est refermé. Alors, des entrailles du loup noir a jailli un hurlement profond, mouvant, infini. Un cri, puis deux, dix, cent. La clameur enflée, ployée, envahissait tout l'air. Bientôt, la forêt ne fut plus qu'un champ au rouge feu. L'homme, sur la branche, a murmuré. Comme j'aimerais comprendre leur langage. Et une voix à son oreille lui répond « Entends !» Le vieux loup hurlait.
« La flamme qui brûle sous la terre est passée dans les entrailles du loup. Nous sommes les derniers gardiens du feu vivant. Restons libres, mes frères. »
De nouveau, le cœur sauvage des bêtes en prière.
« Quand les hommes sont arrivés, nous étions les seigneurs des forêts. Des lacs et des plaines. Nous avons nourri et protégé ceux qui ont la peau tendre et les griffes rondes jusqu'à ce qu'ils puissent vivre seuls. Maintenant, ils sont plus riches que nous et ils oublient. »
Les hurlements formaient une voûte palpitante au-dessus de la clairière.
Aujourd'hui, ils nous accusent d'être des assassins, des voleurs, d'aimer la chair et le sang. Nous sommes loups, aux dents acérées, aux griffes fortes. Que mangerons-nous ? De la chair !
Hurla la meute.
Nous connaissons l'ordre des forêts. Nous savons être contents. L'homme croit que tout est pour lui. Mais qui peut remplir son ventre ? Rien, ni personne. Soyons de vrais loups. Pour vivre, il faut manger. Dévorons ce que Dieu met sur notre chemin.
La forêt s'est assombrie. Alors, la voix profonde du loup a prié ainsi.
Mon Dieu, ce n'est pas à nous de chercher ce qui est juste ou injuste. Nous dévorons. Le monde meurt et renaît. Plus vivant à chaque instant.
Un sortilège a endormi l'homme. Les paroles étranges ont pénétré son rêve. Quand il s'est réveillé, le ciel enflammait l'horizon, couronnant la prière des loups en extase. Le chant s'est apaisé. Des silhouettes furtives ont disparu entre les arbres. Plus loin, sur la steppe, il les a vus se mordiller, rouler dans la neige, s'en mêler joyeusement. Il a souri. Le soir, près du feu, l'homme a dit son histoire. Il a terminé sur ces mots. « Je vous raconte cela, Tzigane, car je sais que vous, vous vous souviendrez. »
Radio Tranxen, c'est...
À l'heure où les sixièmes rencontres de l'illustration battent leur plein à Strasbourg, Van a choisi cette semaine de nous parler bande dessinée. Arnaud Meyer est strasbourgeois, il a 31 ans, un job de conducteur de train, mais pendant 4 ans, il a patiemment esquissé les planches d'un conte philosophique original qui a particulièrement tapé dans l'œil de notre chroniqueur.
Ce week-end, je me suis posé. Je me suis posé sur une petite île. Sur cette île, il n'y a rien. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de sable, il n'y a que des rochers et des moules. Alors, cela peut paraître un peu inquiétant, mais vous ne méprenez pas. Bizarrement, on s'y sent bien. Ce décor, je l'ai trouvé dans une petite bande dessinée assez singulière. Une BD d'ici, créée et auto-éditée par un certain Carnot. Cette BD s'appelle Grand-père Moule. Mais qui est Grand-père Moule ? Grand-père Moule est un drôle de personnage. On ne sait pas qui il est, on ne sait pas où il vit, on ne sait pas ce qu'il fait. Tout ce qu'on sait... c'est qu'il vient régulièrement sur cette île pour faire des trucs et s'occuper des moules. Il est assez jovial, et quand on est perdu, il n'hésite pas à nous aider, quitte même à nous apprendre 2-3 petites choses. Il est là pour nous mettre bien sur ce tas de cailloux. Il est là pour nous aider à attendre le moment propice pour quitter le paradis des moules. Le quitter de façon inattendue. La BD de Carnot a un côté très brut. Les dessins sont tremblants, les expressions incertaines et les décors ont parfois l'air très enfantins, comme si tout n'était qu'une esquisse. Mais malgré cela, je trouve le style graphique très reposant. Il ne fatigue pas l'œil, les cases se lisent vite, le dessin accompagne parfaitement l'absurdité des situations de la BD. Tout est fait pour aller à l'essentiel. Tout ce que pensent les personnages, leur évolution psychologique, leur prise de décision qui peuvent parfois être dramatiques. Car oui, tout au long de ces aventures, on fait la connaissance de plusieurs protagonistes, tous bloqués sur cette île aux moules. Ils veulent sortir, retrouver leur monde, mais très vite, ils se résignent et restent là pendant des semaines sur ce caillou perdu au milieu de l'océan, avec comme seule compagnie des moules et leur grand-père. Vous l'aurez compris, la bande dessinée de Carnot est une œuvre assez particulière. On a l'impression au premier abord qu'elle n'a aucun sens, qu'elle est illogique, mais ne vous laissez pas avoir, très vite on se rend compte qu'elle a beaucoup plus de profondeur qu'on ne le croit. Grand-père Moule a un message à nous délivrer, et il tente de nous le partager à travers ses trois petites histoires, appelées cycles. Un message qui, selon lui, nous changera la vie. Un message pas bien compliqué. Attendre, ne pas forcer la vie et se contenter de profiter du monde qui nous entoure. Un monde qu'il faut choyer, écouter et respecter. À l'issue de tout cela, peut-être que le destin vous fera un merveilleux cadeau. Peut-être vous offrira-t-il un voyage des plus inattendus. Alors allez-y, si vous n'avez rien à faire, je vous invite à vous y perdre vous aussi sur cette île aux moules.
Et pour ceux qui voudraient se procurer cet ouvrage auto-édité, il faut le noter, il sera bientôt disponible sur les rayons de la librairie Savabulé à Grand-Rue.
Radio Tranxen, c'est...
Et c'est déjà presque la fin de cette émission, presque, car il est l'heure de laisser le micro à notre grand maître de la scène locale strasbourgeoise, celui qui ne loupe jamais une occasion de ravir nos oreilles, j'ai nommé Papa Jeff. Et cette semaine, c'est le folk du duo Lettre Heureux qui est à l'honneur.
Et bonsoir la lentille, bienvenue dans notre dernière partie, partie dédiée à la musique. Ce soir, on écoute Lettre Heureux, ce duo de folk originaire de Strasbourg et de Toulouse qu'il faut écouter. Alors, qui n'a pas envie d'être un être heureux? Non, ça prend un H, ça prend un E avec un accent circonflexe, comme le bel arbre, Lettre. Alors, l'être heureux, c'est du folk. Ils vous font découvrir des mélodies et des rythmes oubliés, absolument dansants, absolument festifs, mais aussi très faciles d'accès, j'ai envie de dire. Pour les gens qui n'ont jamais écouté une mazurka, un scottish, ou qui ne savent pas comment on fait une bonne vieille bourrée, c'est typiquement le genre de duo avec lequel vous pouvez commencer. Alors, facile d'accès, mais pour autant, il faut quand même un peu jouer des coudes pour les voir en concert, hein, parce que c'est compliqué, tout ça, blablabla, vous connaissez, on vous fait pas le couplet. Mais eux, ils s'arrêtent pas. Et je vais même vous dire que certains ont eu l'occasion de les écouter durant la dernière année. Ce qui est quand même incroyable, vu que ça fait un an à peu près que tous les groupes galèrent à faire des concerts. Non, eux, l'été dernier, ils ont tracé de Toulouse à Fribourg, Fribourg en Suisse. Attention, difficulté. Et pourtant, leur tournée a été un succès. Et d'ailleurs, l'été prochain, ils ne vont pas se laisser arrêter. Les musiciens de folk sont quand même sacrément coriaces. Hein. Déjà, ils sont endurants, il faut tenir les balles folk. Mais en plus de ça, ils sont audacieux. Des véritables tournées, alors que c'est juste basé sur un carnet d'adresses. En tout cas, bravo à l'être heureux. Ce soir, du coup, on écoute un extrait, on écoute le quatrième titre de leur EP, qui s'appelle « Poil aux yeux ». Le titre en question s'appelle « La libellule et l'abeille ». Ce sera une bourrée à trois temps. Alors attention, hein, je suis sûr qu'il y en a plein qui n'ont pas écouté de bourrée à trois temps depuis le temps. Alors, côté actualité, vous pouvez balancer leur chaîne YouTube. Très rare et très cossu chaîne YouTube, sur lequel il y a des covers. Hein, ils ne font pas que des compositions originales. En même temps, c'est du trad. Ils ont repris d'ailleurs une chanson de Kaz Kenzi qui se nomme Vampira Negra. Vous pouvez déjà aller la consulter. Et puis sinon, dans le reste de l'année, ils en sortiront d'autres des covers. Bon, et bah du coup, c'est parti pour l'écoute du morceau. Attention, c'est explosif, c'est savoureux. Je vais même dire que c'est entraînant. Hein. La libellule et l'abeille par le duo L'être heureux. Thank you.
C'est...
Et voilà, cette fois-ci, c'est la fin, la vraie, de notre émission. On se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles aventures. En attendant, je voudrais profiter de l'anniversaire du premier confinement pour célébrer celui de Radio Tranxène. Il y a un an maintenant, nous nous lancions chez nous, confinés, dans un podcast qu'on imaginait joyeux, décalé et riche de culture strasbourgeoise. Merci à tous ceux qui nous ont suivis dans cette aventure un peu folle que l'on poursuit désormais sur les ondes de Radio Judaïca. Prenez soin de vous, profitez du soleil, du printemps, et n'oubliez pas de rire au moins 5 fois par jour, même si c'est sans raison.
Radio Tranxène, Strasbourg, sans acouphènes.